Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
My name is Samuel Fuller. I'm directing a picture here in Portugal. It's called The Street of No Return, based on a book by David Goodis.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale Samuel Fuller. Sam Fuller, en effet, le réalisateur états-unien est à l'honneur à travers la sortie en DVD chez Carlotta du documentaire A Fuller Life de Samantha Fuller, ainsi qu'à travers l'édition d'un superbe ouvrage paru chez Rouge Profond, Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement. Un livre écrit par Franck Laffont qui sera avec nous tout au long de cette heure de programme. L'équipe de Culture Prohibée remercie pour leur coup de main sur cette émission Mathilde Gibault et Guy Astic. Riding a sunbeam, bolt of heat, see the street. Samuel Fuller est un cinéaste atypique. Il fut accusé de tous les maux, en raison du port de la drogue, réalisé en 1953, et du rapport de son anti-héros avec les communistes, on l'a taxé par exemple d'être d'extrême droite. Idem lorsqu'en 1982, il adapte Romain Gary et son chien blanc, alors que le film Dressé pour tuer est encore en tournage, il est accusé d'être raciste. Bien sûr, tout cela fait preuve d'une bêtise sans nom et d'une méconnaissance totale du cinéma de celui qui a signé Shock Corridor, Police Spéciale et Au-delà de la gloire, The Big Red One en VO. Alors cet homme qui a arrêté l'école à 13 ans a été grouillot, journaliste, écrivain, scénariste, script doctor, soldat émérite de la Seconde Guerre mondiale, ayant effectué quand même les trois débarquements en Afrique, en Italie, en France. Ce type qui a eu plus de vie que nous tous réunis dans ce studio, ce cinéaste provocateur à la narration visuelle énergique, était un type qui a combattu toute sa vie, justement, tous les obscurantistes, racistes, extrémistes de tout poil. Que ce soit plume à la main, fusil au poing ou caméra à l'épaule. Il a d'ailleurs raconté sa vie dans l'excellente autobiographie coécrite avec sa femme Christa Fuller, Un troisième visage, qui est paru chez Alia, aux éditions Alia, en France. Récemment, Carlotta a sorti A Fuller Life, récit d'un authentique franc-tireur américain, franc-tireur étant vraiment ce qui résume le mieux Samuel Fuller. Et c'est un documentaire d'une heure et demie assez passionnant, qui est fait par sa fille, donc, et dans lequel des amis de Sam Fuller, des artistes qui l'ont côtoyé de près ou de loin, des réalisateurs, il y a William Friedkin, il y a Joe Dante, il y a l'acteur James Franco, il y a Tim Ross, il y a l'actrice Constance Towers qu'on retrouve, qui était parmi ses films les plus connus, c'est-à-dire Shock Corridor et Police Spéciale. Tout ce monde-là qui lit des extraits du livre et des extraits du livre donc de son autobiographie à Fuller qui sont illustrés par des bobines 16 mm qui ont été retrouvées dans le bureau de Samuel Fuller. Donc il y a des images filmées quand il est soldat, voilà. Enfin c'est très très impressionnant et des images totalement inédites. Et c'est vraiment les fans de Fuller qui ont lu le livre ne découvrent pas. Les images restent quand même terribles, hein, surtout les images dans les camps de la mort. Hein, voilà, c'est quand même assez, assez effrayant, hein, ce que filme Fuller. Et c'est quand même un document assez exceptionnel. Et c'est là qu'on se dit que ce type a eu une vie totalement exceptionnelle, complètement hallucinante. On peut même se demander si c'est pas un personnage de fiction, en fait, Samuel Fuller, quoi, tellement sa vie est bigger than life, comme on dit aux États-Unis. Et puis, y a aussi un supplément qui est très très intéressant. C'est un pilote réalisé par Fuller en 1959, qui dure 26 minutes, pilote d'une série sur un groupe de soldats de l'armée de terre américaine qui combat les nazis en Afrique du Nord. Et ça s'appelle Dogface, voilà. Et ça dure 26 minutes, et ça montre que Fuller, bon, on l'a vu dans d'autres de ses films, hein, maîtrise complètement, bah, entre guillemets, ce qu'on appelle l'art de la guerre, et surtout la manière de la filmer et de la raconter. Il y a une véracité chez Fuller qui est très forte, même à travers ce petit pilote de 26 minutes. Mais aujourd'hui, on est en studio avec un ami de Culture Prohibée, parce qu'il vient quand même assez régulièrement maintenant, parce qu'il sort toujours des livres qui nous intéressent, il le fait exprès. Et là, il vient de sortir un livre sur Samuel Fuller, qui s'appelle donc Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement, et c'est Franck Laffont donc, qui est avec nous. Bonjour Franck.
Bonjour Jérôme.
Et donc un livre, que dis-je, un pavé sur Samuel Fuller, un pavé qui démarre d'ailleurs très fort, parce qu'il démarre par une préface de Jim Jarmusch, voilà. Alors c'est assez surprenant. Comment on fait pour persuader Jim Jarmusch de faire la préface de son livre, qui te cite en plus? J'ai l'impression qu'il a même lu le livre avant de faire la préface. Ça, c'est un vrai travail collectif, quoi.
Alors comment on persuade Jim Jarmusch? Surtout, on arrive à persuader Jim Jarmusch parce qu'on a réussi à établir des liens amicaux avec Christa Fuller. Et Christa et m'a mis en contact avec Jim Jarmusch, qui est toujours débordé, bien entendu, comme tout le monde, mais qui a fini par trouver le temps d'écrire quelques lignes, quelques paragraphes où il évoque Sam, qui a connu, bien entendu, notamment sur le tournage de Tigre Héros, hein, qui était un documentaire qui est arrivé dans les années 90. Il a connu et il a énormément apprécié son cinéma, bien entendu, donc il a tenu quand même à lui rendre hommage à l'occasion des 20 ans du décès de Samuel Fuller, qui viennent de passer. Ça s'est fait finalement assez naturellement, parce qu'une fois qu'il a pris connaissance du contenu du livre, je pense qu'il a trouver le temps, encore une fois, de dire quelques mots, de résumer de manière assez, assez forte ce qu'il pense du cinéma de Fuller. Donc je pense que c'est effectivement une bonne entrée en matière.
Et dès le début du livre aussi, tu reviens sur quelque chose. Alors tu reviens sur les origines russo-polonaises de Fuller, hein, mais aussi sur un événement incroyable qui se passe quand Fuller a 11 ans. Parce que ses parents se séparent. Et on fait croire à Fuller que, enfin, c'est assez dingue, que son père est mort, en fait.
Oui, alors, est-ce qu'on lui a fait croire? Est-ce qu'il n'a pas voulu évoquer ce divorce dans son autobiographie? J'en suis bien incapable de le dire, mais ce qui est certain, c'est que, contrairement à ce qu'il dit dans Un troisième visage, son père n'est pas mort quand il avait 11 ans, il est mort bien, bien, bien plus tard, quasiment 30 ans plus tard. Alors, ça, d'une certaine manière, c'est anecdotique pour nous. Ça l'est moins dans la mesure où la séparation des parents de Samuel Fuller peut se retrouver d'une manière ou d'une autre dans certains de ses romans. Donc, il y a des situations, notamment ce qui est à la base de L'inexorable enquête, hein, le roman noir qui est publié dans les années 40, au milieu de 43. Ça peut trouver son origine dans cette séparation. Donc c'est voilà, c'est intéressant. C'était intéressant pour moi aussi d'évoquer ça, parce que alors c'est parti d'un petit texte que j'ai voulu mettre au début, après la préface de Jimmy Charmioche, pour rentrer dans le livre de manière assez forte, un peu comme Fuller lui-même le faisait. Bien sûr, c'était le but. D'ailleurs, la mise en page joue des deux colonnes à ce moment-là, alors que le reste du texte n'est pas disposé en deux colonnes. Donc, il y a vraiment une volonté de s'approcher un petit peu du journal avec des scoops. L'idée, c'était aussi de poser quelque chose qui est sous-jacent à l'ensemble de mon livre, à savoir que j'ai fait un travail de première main. C'est-à-dire que je suis allé dans les archives et j'ai essayé de, non pas de contredire Fuller, c'est pas la question, c'est juste de vérifier d'ailleurs tout ce qu'il a dit, mais d'avoir un accès direct à la matière première, que ce soit des archives généalogiques, que ce soit des romans, des nouvelles, etc., pour faire comme lui le faisait et disait qu'il fallait le faire, à savoir qu'il ne fallait pas prendre pour argent comptant la parole d'autrui. C'est vraiment suivre à la lettre sa leçon.
Culture Prohibée spéciale Sam Fuller. Il y a aussi autre chose qui est assez étonnant dans les premières pages de ton livre, c'est cette histoire d'acte de naissance aussi pour Samuel Fuller.
Oui, c'est...
Il n'est pas né.
Il y a aussi une part de mystère, mais...
Franck Lafont.
Là, c'est un pur hasard. C'est-à-dire que je ne comptais pas faire de généalogie, j'en ai jamais fait auparavant, peut-être que j'en ferai jamais par la suite. Mais je me suis aperçu à un moment qu'il y avait des choses un peu étranges. Et effectivement, alors qu'il a toujours dit qu'il était né dans le Massachusetts en 1912, tous les documents témoignent de sa naissance en dehors du territoire américain. Alors sur les papiers, il est marqué Russie à chaque fois. C'est pas davantage précisé, mais on peut le faire grâce aux documents qui concernent son frère et ses parents, le reste de sa famille. Mais de tout cas, de figure, même s'il est né en 1912, comme il l'a dit, on a des documents qui sont les manifestes des bateaux qui ont transporté sa mère, ses frères, ses soeurs et lui en début 1913, depuis Liverpool jusqu'au Canada. Et ensuite aux États-Unis. Donc effectivement, là, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas né sur le territoire américain, qui est né donc en Russie au sens très large, ce qui aurait pu évidemment lui poser beaucoup de problèmes en 1951, notamment lorsqu'il a été accusé d'être communiste pour J'ai vécu l'enfer de Corée. Il est évident qu'à un moment, il a dû se dire qu'il valait mieux pas qu'il révèle ça. On peut le supposer du moins, là aussi, je ne suis pas dans sa tête, je ne mets pas dans sa tête, je présente les faits, j'expose certains éléments qui sont comme intéressants pour comprendre aussi sa mentalité, parce que finalement c'est quelqu'un qui est comme beaucoup d'autres, un immigré, et qui apprécie ce qu'offrent les États-Unis, tout en ayant sur ce pays, comme on le sait, les yeux grands ouverts, et qui... pointer les défauts, mais malgré tout, il y a une sorte de reconnaissance des opportunités que les États-Unis ont pu lui offrir.
Et d'ailleurs, tu l'as évoqué à l'instant, Bon, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé, donc c'est vrai que, y compris dans d'autres livres, mais c'est vrai, il a été accusé d'être communiste, il a été accusé d'être d'extrême droite, il est un peu comme Aldrich, il n'a pas la même vie, il a une vie nettement plus chargée et compliquée que celle d'Aldrich, mais il a été accusé un peu de tous les maux, en fait c'est un franc-tireur et il n'a jamais été vraiment compris, Fuller.
Non, en France, le cas est même encore plus compliqué d'une certaine manière, parce qu'il faut comprendre les critiques qu'il a pu essuyer dans les années 50 et 60 en se replaçant dans l'époque, à savoir une critique engagée, très engagée à gauche comme Georges Sadoul, à tel point qu'il a écrit quand même un certain nombre d'absurdités qui aujourd'hui nous paraissent totalement sidérantes. Et aux États-Unis, c'était une figure... alors, quand on regarde toute la presse, toutes les critiques, globalement, il a eu quand même de très bonnes critiques, même si certains journalistes, New York Times notamment, ont parfois sont passés à côté de certains films, du coup n'ont pas vu leur originalité. Mais il est vrai que pour lui, le premier choc avec la critique, ça a été en début 51, avec J'ai vécu l'enfer de Corée. Parce que le film, le problème du film et le problème de Fuller finalement, c'est que c'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui aimait les États-Unis, mais c'est pas quelqu'un qui, dans ses films, se présentait comme avait une attitude de patriote. Le seul contre-exemple à ça, c'est la fin des Maraudeurs Attaque, début des années 60, parce que la fin était imposée par le producteur. Donc tout ce qui est défilé des forces armées américaines au son d'une musique qui semble les glorifier, c'est pas de Fuller. C'est pas du Fuller de toute façon. Dans J'ai vécu l'enfer de Corée, qui a été réalisé très rapidement après le début du conflit. Alors, très très rapidement, je veux dire, de 6 mois après le début du conflit, le film était terminé. Fuller a posé plusieurs problèmes à la critique à la critique en général. Parce qu'à la fois, il montrait un soldat qui tuait un prisonnier de guerre, ce qui était contraire à la Convention de Genève. Et c'était une description de quelque chose que les États-Unis ne voulaient pas, dont les États-Unis ne voulaient pas admettre l'existence. Et en plus, il montrait le racisme qui existe aux États-Unis par l'intermédiaire d'un regard étranger qui était l'ennemi nord-coréen. Donc d'une certaine manière, il a cherché un peu là où ça a gratté. Bien entendu, on a eu d'une part la presse de droite, représenté en particulier par un journaliste de la presse Hearst, qui était Victor Riesel, et puis qui a attaqué Fuller, et la presse de gauche, qui l'a non pas défendu, mais qui a pris son film malgré tout comme une sorte de témoignage des actions auxquelles les États-Unis pouvaient se livrer. Et dans le même temps, la presse de gauche a aussi, et la presse communiste, a carrément accusé Fuller des mêmes maux que la presse de droite. En fait, il n'était ni à gauche ni à droite d'une certaine manière. En tout cas, il n'y avait pas de discours idéologique dans les films de Fuller. C'est pas que c'est un individualiste, mais c'est que c'est quelqu'un qui ne croit pas au système, qui ne croit pas aux idéologies. Donc, il n'a pas présenté. Son film n'est pas patriotique. Il présente les choses telles qu'elles sont ou telles qu'il croit qu'elles sont. Et la critique, alors l'histoire est très compliquée en réalité, il faudrait vraiment dresser sur une chronologie très rigoureuse, parce que il y a aussi, pour comprendre les problèmes qu'il a pu rencontrer sur ce film-là en particulier, il faudrait aussi parler des liens avec l'armée, des autorisations données ou non par l'armée, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très délicat à aborder comme ça en quelques minutes. Mais par la suite, évidemment, avec un film que tu as évoqué, à savoir Dresser pour tuer, White Dog, il a aussi... rencontré de gros problèmes qui ont mené à la non-sortie du film aux États-Unis au début des années 80, à l'exception d'un bref passage dans les cinémas de Détroit. Pour des raisons, là aussi, de contexte historique, à savoir le fait que le racisme et les tensions entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis étaient extrêmement... Enfin, un peu plus vif que quelques années auparavant, début des années 80, il y a eu un certain nombre de crimes, notamment qui ont été commis, qui ont avivé les tensions. D'autre part, il y avait auparavant quelques mois auparavant une série télé qui parlait de l'esclavage et qui avait engendré un certain nombre de problèmes avec la communauté noire, qui était du coup sur ses gardes. Il y a eu certaines personnalités mal intentionnées qui ont jugé le film sans l'avoir vu. Il y a eu la Paramount également qui a posé un certain nombre de problèmes. Il y a un faisceau d'éléments qui ont fait que finalement Fuller a fait ce qui est sans doute son dernier grand film aux États-Unis, et que ce film-là n'a été connu aux États-Unis que début des années 90. Le problème de Fuller en réalité, c'est que toute sa force pour nous, bien entendu, tout ce qui est sous son intérêt, c'est qu'il ne se contentait pas de parler de quelque chose, il ne se contentait pas de parler de la guerre de Corée, de parler du racisme, mais il nous confrontait vraiment au sujet. C'est-à-dire qu'il abordait le sujet de front, il mettait vraiment les points sur les i. Et ça, évidemment, c'est pas la même chose que de faire construire une histoire et de parler un petit peu du racisme ou d'un autre sujet sensible.
Et le racisme, c'est vraiment un sujet central dans sa filmographie, puisqu'on le retrouve dans plein de films, même dans Le Jugement des Flèches, par exemple, avec le soldat nordiste qui meurt pour sauver le jeune indien. Il y a aussi, dans The Crimson Kimono, on voit bien les préjugés qui sont à l'encontre des nippo-américains. Enfin, c'est vraiment quelque chose... Parce que lui, il a rencontré... tu reviens dans le livre là-dessus, il a eu toute une partie de sa vie où il est journaliste, et il rencontre... il est confronté au Ku Klux Klan. C'est vraiment quelque chose auquel il est confronté, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, c'est tout à fait central à son cinéma. C'est lié à son éducation aussi, c'est-à-dire qu'il a été élevé dans une famille où on ne pouvait pas utiliser de termes méprisants vis-à-vis des Noirs, notamment. Il a suivi des cours dans une école qui était racialement mixte. Il a habité pas très loin de Harlem ensuite, et pour lui, évidemment, ça faisait partie de l'Amérique. C'est-à-dire que le problème, effectivement, qui est mis en évidence dans un film comme Le Jugement des Flèches, c'est que tant qu'il y a du racisme, l'Amérique ne peut pas être unie. Et c'est là comme un des problèmes fondamentaux. Mais alors, il l'aborde aussi de différentes manières. C'est-à-dire qu'il l'aborde frontalement, mais il l'aborde de manière un peu moins évidente, ou du moins de manière tout aussi intelligente, sans que ça soit perçu a priori. C'est-à-dire que dans plusieurs de ses films, et notamment dans les westerns, là je parle de 40 heures, je parle également du Baron de l'Arizona, qui d'une certaine manière est un western, on a aussi la présence d'Indiens dans la population, dans le reste de la population américaine, sans que ça pose de problème. Si on regarde les films, dans 40 heures, on a, en dehors des domestiques du personnage qu'incarne Barbara Stanwyck, on a dans la ville de Tombstone des Indiens qui sont là, qui font partie de la population, qui ne posent aucun problème, qui sont parfaitement intégrés. Dans la ville de Phoenix, dans le Baron de l'Arizona, c'est de la même façon. Lorsque le personnage incarne Vincent Price, qui est un escroc qui veut s'approprier tout l'Arizona, se trouve en face de la population de la ville, eh bien, il y a des Indiens. Ces Indiens ne sont pas pointés du doigt. C'est aussi le cas dans le port de la drogue. Dans le port de la drogue, à la bibliothèque de New York, par exemple, lorsque Richard Widmark veut visionner un microfilm, il a affaire à un Afro-Américain. Et c'est pas mentionné, c'est pas souligné, parce qu'il est là, il fait partie des États-Unis comme les autres. Donc c'est aussi une autre façon de parler du racisme, je veux dire, en montrant que tous ces gens-là, bien entendu, ont tout naturellement leur place sein des États-Unis. Thank you.
Vous écoutez Franck Laffont, auteur de Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement, paru chez Rouge Profond, au micro de Culture Prohibée. On a souvent parlé de Fuller pour sa narration visuelle, hein, pour ce qui est son cinéma, en fait, très moderne hein, dans sa mise en scène. Mais toi, tu choisis de te concentrer énormément sur l'écriture, en fait, dans une très grande partie du livre. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, bah, Fuller, en fin de compte, il débute par l'écriture et il termine aussi par l'écriture avec un très bel ouvrage, son autobiographie.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense visuellement, mais dans le même temps, les mots sont là. Les mots sont toujours là avant. Et bien entendu, il écrit ses scénarios avant de les tourner. Et c'est toujours très intéressant de lire ses scénarios parce que la plupart ont un style très particulier. Ils sont un style reconnaissable d'emblée parce que dans son enthousiasme naturel, il va décrire dans les didascalies des scénarios des choses qui ne pourront pas apparaître à l'écran. Mais il y a un besoin de le mettre, de le coucher sur le papier. Et puis, ce qui m'a vraiment intéressé, et ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, c'est de, seulement pour des questions de matériel, c'est de parler de ses tout premiers romans des années 30, ses romans de ses Pulp Fictions, et aussi des nouvelles qu'il a pu publier, enfin du moins celles que j'ai retrouvées, qu'il a pu publier dans les années 30 et dans les années 40. Parce que, contrairement à ce que Fuller lui-même a dit, à savoir que c'était des ouvrages de commande, si on se parler uniquement des romans, et finalement, c'était pas vraiment intéressant. Ce ne sont pas des livres parfaits, certes, mais ce sont des livres qui permettent d'avoir la première expression de sa personnalité d'artiste. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place, qui viennent en partie de la presse, mais il y a d'autres choses qui sont là. Juste pour prendre un exemple très, très concret, c'est-à-dire que dans un certain nombre de films de Fuller, et là, ça vient de son expérience de journaliste, il y a, à la fin du film, une sorte d'appel au spectateur. On peut parler de la fin du Jugement des Flèches, par exemple. On peut parler de la fin également du plafond new-yorkais. On peut parler de la fin de J'ai vécu l'enfer Corée d'une autre façon. Il y a l'idée que, en clôture de film, il y a une ouverture sur le spectateur, sur le citoyen américain. Et il ne faut pas oublier que ce sont souvent des films à message, finalement, sous des dehors de films de genre, hein, des films de Fuller. Bon, et bien ça, c'était quelque chose, cette idée d'appel au spectateur, c'était quelque chose qu'on trouve dans son tout premier roman, où on a la projection d'un film qui s'interrompt soudain et où l'on donne aux spectateurs dans la salle 60 secondes pour qu'ils trouvent le coupable de l'intrigue policière qu'ils viennent de suivre. C'est le même ressort. Mais bien entendu, ça anticipe hein, sur certains trucs à la William Castle ou certaines adaptations de Diptinègre, d'Agatha Christie, etc. Donc c'est très moderne, parce qu'on est en 1935. Hein. Ça n'a jamais été fait au cinéma, et Fuller l'invente dans son roman. Donc c'est un élément parmi d'autres, parce que tout à l'heure, on a déjà évoqué le White Dog dans C'est pour tuer. Bon, dans ce film-là, il y a une question de racisme et d'éducation. L'éducation, chez Fuller, c'est un thème très, très important, notamment dans ses rapports avec le racisme, mais pas seulement. Et dans son deuxième roman, Test Tube Baby, par exemple, tout repose sur une idée de mauvaise éducation et aussi sur une idée qu'on retrouve à travers tout le cinéma de Fuller, ce motif de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, à savoir de l'homme ou du chien dans C'est pour tuer qui finalement possède deux visages. C'est quelque chose de fondamental et qu'on retrouve d'ailleurs dans des articles que j'ai retrouvé dans des articles depuis que j'ai fini mon livre où il parle de par exemple du comportement que peut avoir un soldat en temps de guerre. Il cite dans une lettre qu'il avait envoyée à un magazine, il cite le comportement d'un GI qui monte sur scène lors d'un spectacle aux armées mais qui n'ose qu'embrasser l'actrice Annalise sur les joues alors que quelques jours auparavant, ce soldat était en train de se débarrasser de manière très violente d'un sniper. Et c'est quelque chose de fondamental aussi dans sa vision de l'homme, finalement.
Mais tu parlais de test tube baby, là, justement, c'est quand même assez surprenant, parce que moi, je découvre dans le livre que ça part d'une rencontre avec Alexis Carrel, quand même. Enfin, c'est dément, ce truc.
Oui, tout à fait. Alors là, je ne l'ai pas retrouvé. Fuller dit qu'il l'a interviewé, je n'ai pas retrouvé le texte. Ça aussi, c'est un des gros problèmes, lorsqu'on essaie de savoir ce que Fuller a fait avant de faire du cinéma. C'est l'accès au texte, l'accès aux articles de journaux, notamment. C'est rendu compliqué pour plein de raisons, et notamment parce que d'abord quand il a écrit, puis il a écrit pour le New York Evening Graphic, et le New York Evening Graphic était un tabloïd qui existait de 1924 à 1932, qui a une très grande importance, à mon sens, pour le cinéma de Fuller, d'un point de vue de l'organisation de la pensée, de sa manière d'agir, d'essayer d'agir sur le spectateur, mais c'est un journal qui était très mal perçu à l'époque, qui était surnommé le pornographique, et qui était tellement mal perçu qu'il a été mal, qu'il n'avait même pas été tout le temps acheté par les bibliothèques municipales de New York. Ce qui fait qu'il est très difficile d'accès, et globalement, dans tous les articles que j'ai pu retrouver de Fuller, on trouve très peu sa signature. Et c'est le problème, c'est-à-dire qu'accéder aux archives sans être certain que c'est Fuller qui a écrit les textes. Parce que les gens, sauf s'ils étaient des déficits d'une aura particulière, s'il y avait une rubrique précise, comme Walter Winchell, par exemple, ou Ed Sullivan, qui a commencé au graphique également, ne voyaient pas leur nom en bas de l'article. Donc dans certains cas, on est obligé d'émettre des hypothèses. Est-ce que c'est Fuller ou est-ce que ce n'est pas Fuller? Bon, on retrouve quand même des choses, bien entendu. Mais tu l'as dit, et on ne le dit jamais assez, c'est quelqu'un qui a une vie très, très pleine. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit à droite et à gauche, qui a écrit sous des pseudonymes également. C'est parfois délicat de retrouver les pseudonymes, bien entendu, même si j'en ai retrouvé un. Ça, j'en parle pas dans le livre, parce que je l'ai retrouvé depuis, mais c'est quasiment impossible de le repérer, parce que il a pris le pseudonyme d'un personnage de son premier roman, Burn Baby Burn. Alors, comme le roman n'a jamais été réimprimé, n'a jamais été traduit, est quasiment introuvable en bibliothèque aux États-Unis, si on fait une recherche sur Internet, par exemple, en tapant le nom du personnage, on a 7 occurrences. Donc ça veut dire qu'on a sans doute encore tout un travail à faire de découverte de Fuller, journaliste, de Fuller, également auteur de nouvelles, qui pourrait enrichir la vision de son œuvre ensemble, et puis de son cinéma en particulier, bien sûr.
Vous écoutez Culture Prohibée, consacrée à l'ouvrage Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement de Franck Laffont aux éditions Rouge Profond. Tu parles d'un pulp disparu, hein, tu parles de dirt. Tu parles aussi de l'éventualité qu'il ait été nègre aussi, hein, enfin ghostwriter comme on dit en anglais. Voilà, ça c'est des choses. Il y a encore des recherches à faire en fait concernant Fuller.
Oui, c'est très difficile d'y parvenir, et malgré tout, Je ne désespère pas de continuer à trouver des choses nouvelles, de continuer à trouver des textes en particulier. J'en ai retrouvé, hein, j'ai retrouvé des choses vraiment intéressantes, notamment lorsqu'il parle de la découverte de... Pas de découverte, de la lecture par un de ses compagnons d'armes pendant la guerre, de son roman Inexorable Enquête. Il a donné des anecdotes à ce sujet, là. Il en parle dans Un Troisième Visage, il en a parlé en interview, mais là, c'est une anecdote totalement différente. Et c'est quelque chose qu'il a écrit sur le coup. C'est aussi parmi les choses intéressantes qu'on peut faire, c'est trouver des textes, des interviews de l'époque de la sortie du film, par exemple, de l'époque de la publication des romans, pour avoir la vision de Fuller au moment ou presque après qu'il ait fait un film, par exemple. Parce que sa pensée peut évoluer et rétroactivement, il peut dire des choses qui... très différent de ce qu'il a pu dire en 1950, par exemple, ou en 55.
Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas figé, qui évolue.
Tout à fait, et puis là, on n'a pas le même dialogue, forcément, le même discours à 40 ans qu'à 70 ans.
Oui, c'est logique. On découvre même moi, à travers Test Tube Baby, là, dont tu parles dans le livre, on découvre aussi que derrière tout ça, il y a des projets de quelque part de films de SF avortés, quoi. Ça, j'aurais bien aimé voir Fuller faire de la SF, quoi.
Oui, Fuller a écrit un nombre de scénarios extrêmement élevés, a inventé encore plus d'histoires, et effectivement, parmi tout ce trésor qui reste encore à exploiter, il y a des projets de SF. Il y a des choses qui, notamment en 1965, une adaptation du Lysistrata d'Aristophane sous forme de film de science-fiction. Et d'ailleurs, c'est le Flowers of Evil dont il est question lorsqu'il apparaît dans Pierrot le Fou. C'est absolument pas, en fait, les Fleurs du Mal de Baudelaire.
D'accord.
C'est une adaptation d'une pièce de théâtre dans le registre de la science-fiction. Et la traduction donnée dans le film de Godard est fausse, en fait.
Ah, écoute, tu nous apprends encore quelque chose, hein, voilà. Mais justement, ce qui est intéressant, bon, là, on parle beaucoup du Fuller et de ses qualités d'écrivain. Toi, tu te refuses toutefois à le voir comme un homme de lettres. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans le livre, à un moment, tu évoques Make Up and Kiss, qui clôt une trilogie amorcée avec Run Baby Run, hein, dont on a aussi parlé. Et tu parles de rafales de mitraillettes pour qualifier l'écriture de Fuller. Moi, ce qui... d'entrée de jeu me fait rattacher Fuller à la Hard Boiled School, et ça correspond aussi pour moi à son style visuel, parce que moi je vois Fuller aussi comme un cinéaste qui serait un peu l'expression de ce que ce que faisait en écriture Hammett, par exemple, c'est-à-dire une sorte de cinéaste comportementaliste.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, même s'il y a quand même parfois une approche psychologique dans ses romans, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas particulièrement. Donc effectivement, ça passe avant tout de manière visuelle, ça passe avant tout par ce que font, ce que les personnages, leur cadre, enfin, l'environnement, etc. Bon, et puis par les dialogues aussi, parce que les dialogues de Fuller sont extrêmement importants, mais ils servent parfois à exprimer la psychologie et l'entendue des personnages, mais c'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant dans les dialogues de Fuller. C'est clairement quelqu'un qui, lorsqu'il écrivait ses romans, et là je parle vraiment des romans avant qu'il fasse du cinéma, il y avait comme une sorte de manque, on sentait qu'il y avait un manque pour lui, comme, malgré tout. L'image n'était pas là, l'image était presque là. Il était déjà, alors ce qu'il faut signaler, bien entendu, c'est qu'au moment où il publie ses premiers romans, il est déjà en train d'écrire des scénarios. Il est déjà en train de voir ses premiers scénarios adaptés, modifiés, évidemment. Mais en tout cas, il a déjà un pied dans le cinéma et il est déjà actif de ce point de vue-là. Donc il y a vraiment une coïncidence des deux. Ce qui explique en partie, à mon avis, le fait que on perçoit dans ses romans à la fois des éléments très autobiographiques, mais aussi presque cette volonté déjà de passer derrière les caméras et non pas d'écrire, ou du moins d'écrire d'abord, oui, le scénario, mais ensuite finalement de porter ça à l'écran.
D'ailleurs, tu reviens aussi, hein, dans son lien avec le grand écran, hein, sur un travail méconnu de Fuller, y compris pour des gens comme Otto Preminger, par exemple. Toi, tu parles de 6 scripts durant les années 30 et les années 40. Un travail de script doctor, en fait, anonyme. Et c'était même quelqu'un qui était très écouté au niveau... Alors, Trumbo disait... Hein, c'est ce que j'ai lu dans l'ouvrage, que c'était un sacré écrivain. Donc c'est quand même une sacrée... comment dire, Trumbo, quand même, c'est pas n'importe qui. Donc, et c'est un sacré compliment. Et c'était vraiment quelqu'un de très respecté, parce que dans la maîtrise de l'écriture, parce que quand Wim Wenders va chez lui dans les années 70 pour lui dire putain, je peux pas faire mon film Alice dans les villes, puisque il y a Bogdanovich qui a fait La Barbe à Papa et c'est mon film, quoi. Voilà. Mmh. Et c'est Fuller qui arrive à lui expliquer qu'en réécrivant certaines parties ou en écrivant d'une certaine manière, il peut faire un tout autre film. C'est impressionnant quand même, parce que nous, on le connaît pour l'aspect visuel de son cinéma. En fait, il était peut-être encore plus respecté pour sa maîtrise de la science de l'écriture du scénario.
Oui, et surtout par sa faculté à raconter, à inventer des histoires, à les raconter et à passionner les gens. Il y a beaucoup d'anecdotes qui vont dans ce sens-là. C'est Scorsese qui dit que pour lui, c'était la seule personne qui était capable de raconter un film, de passionner en racontant le film, et en plus de réussir à faire le film tel qu'il voulait, et vous passionner à nouveau avec le film. C'est-à-dire qu'il avait, il y a plein d'anecdotes, Gene Fowler Jr., qui était son monteur à la fin des années 50, raconte qu'il voilà, il suffit de demander une idée d'histoire, et puis il a inventé au fur et à mesure. Et ça tenait debout en général, et surtout c'était comment dire, c'était une sorte de faculté, à gripper la personne qui avait en face de lui par la parole. Et on le voit bien dans ses interviews, dans les nombreuses interviews qu'il a faites à partir d'une certaine période, sa parole est passionnante. Sa façon de s'exprimer, c'est une manière atone. On le retrouve déjà, on retrouve son cinéma dans sa façon de s'exprimer, et inversement, en fait. C'est quelqu'un qui était passionné, et ses films sont passionnés. Ses films sont... expriment sa personnalité de manière très forte, au-delà de l'aspect autobiographique qu'il peut y avoir parfois. Il y a un peu de sa folie, de sa manière de vouloir absolument captiver l'attention. C'est d'ailleurs ce qui est surprenant aussi, c'est les gens qui disent que quand ils racontaient ces histoires, ils vous agrippaient physiquement. Lorsqu'il s'est rendu dans la salle de montage de Raging Bull, il était totalement époustouflé par les images tournées par Scorsese, et il n'arrêtait pas de donner des coups dans le bras de sa monteuse, Thelma Schoonmaker. Et à la fin, selon Scorsese, il était couvert de bleu. Mais voilà, c'était quelqu'un qui avait une passion pour ce fait qui peut sembler évident de raconter des histoires. Oui, mais en prenant en compte, bien entendu, la personne à qui ça s'adressait.
Oui, c'était un compteur né, quoi.
Voilà. Compteur né, exactement.
Et d'ailleurs, alors, ce qui est rigolo, c'est que... Mais il n'a pas toujours été compris. Toi, tu cites, au sujet du Jugement des Flèches, tu cites Michel Mourlet, qui ne comprenait pas, en fait, les dialogues, parce ces dialogues n'étaient pas toujours compris, parce qu'il maniait l'art du paradoxe, dans le même souci d'être un comportementaliste, en fait, parce que ces dialogues traduisaient, s'ils étaient absurdes, c'est qu'ils traduisaient l'état d'esprit de ces personnages. Et par exemple, le fameux « Si tu meurs, je te tue », dont J'ai vécu l'enfer de Corée. Enfin voilà, tout ce type de dialogue, ça en faisait, pour moi, ça en faisait quelqu'un de très moderne.
Totalement, c'est quelqu'un de moderne, parce que son cinéma est paradoxal et plein de contrastes. Il peut être ambivalent parfois. C'est un cinéma tout sauf simple en réalité, même si d'une certaine manière, il y a aussi une forme de simplicité. Une forme de simplicité dans la... compris dans les dialogues. Les dialogues sont extrêmement importants, bien entendu, parce que si on fréquente le cinéma de Fuller, si on regarde ensuite ce qu'il a fait pour la télévision, et notamment pour Le Cheval de Fer, qui est une série du milieu des années 60, qui n'est pas du tout connue en France, on s'aperçoit très fort, on comprend tout de suite, en entendant les dialogues, si Fuller a fait le scénario ou s'il n'a pas fait le scénario. Je reconnais ça bien, ton, il y a une particulière, il y a notamment l'art du paradoxe, il y a l'utilisation de l'argot, il y a plein de choses comme ça qui font que il y a un style également dans les dialogues.
Vous écoutez Franck Lafond au micro de Culture Prohibée. À l'instant, tu parlais des paradoxes, il y a des traits d'humour aussi, il y a beaucoup de traits d'humour. Ce qu'on lit dans ton ouvrage, pardon, c'est que ces traits d'humour ont été très souvent tempérés par la censure. Et en fait, il a eu énormément de soucis avec la censure, Fuller, quand on lit le bouquin, on s'en aperçoit.
Oui, il y a tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a la censure quotidienne, j'allais dire, à savoir que même si lorsque Fuller commence à devenir réalisateur en 1948, fin 48, on n'en est plus quand même à normalement avoir une liste d'interdits devant les yeux et de supprimer des scénarios qui figurent sur la liste d'interdits. On n'est pas tout à fait, on n'est plus tout à fait là quand même. Malgré tout, il y a bien entendu des interdits et surtout il y a une marge d'interprétation du censeur. Donc d'une certaine manière, Fuller en a subi les conséquences comme tous ses contemporains. Il a eu la chance, comme des gens comme Preminger, par exemple, d'arriver à une période, même si Fuller arrive plus tard en tant que réalisateur, d'arriver à une période des années 50 où quand même la censure évolue, même les studios les plus conservateurs commencent à sentir que leur cinéma n'est plus en phase avec le monde réel et comme se manifeste. Ça évolue et il y a une réécriture du code en 56 qui permet un certain nombre de choses. Malgré tout, il y a des cas assez douloureux et en même temps, on se demande si, comme toujours d'ailleurs, si l'intervention de la censure n'a pas eu un effet positif, en partie au moins. Parce que bon, tout à l'heure, on a parlé des controverses qui ont entouré J'ai vécu l'enfer de Corée et Dressé pour tuer, mais il y a eu aussi un film assez difficile pour Fuller à faire en raison des nombreuses réécritures qu'il a dû faire, c'est Les Bas-fonds New-Yorkais. Les Bas-fonds New-Yorkais, qui est sans doute un des films les plus forts qu'il a pu faire. Donc le résultat est là. Malgré tout, c'est très très loin de ce qu'il comptait faire à l'origine. Il y a eu une période quasiment d'un an d'envoi de scénarios et de demandes de correction, d'envoi de scénarios et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a eu une histoire qui est très éloignée de ce qu'elle devait être à l'origine. Et pourtant, il a peut-être fait avec Les Bas-fonds New-Yorkais l'un de ses films les plus radicaux. Mais bon, voilà, en dehors de ces cas-là, quand même assez épineux, lorsque Fuller, dans le scénario du Jugement des Flèches, un personnage qui parle d'une selle dans l'infanterie comme d'un casse-noix. C'est une vulgarité que le code de production ne peut pas admettre. Or, pour Fuller, il n'y a aucune raison que les personnages sur l'écran ne s'expriment pas comme on le ferait dans la vie, quoi.
Ouais, tout à fait, c'est quelque chose qu'on retrouve, il y a une sorte de véracité dans son cinéma, qu'on voit dans The Big Red One par exemple. Il y a aussi beaucoup de violence dans son cinéma, ça c'est une chose que tu abordes dans le livre. C'est normal qu'il ait aussi été confronté à la censure, parce qu'il y a pas mal de nudité quand même, enfin dans ce qui était permis, en tout cas au maximum de ce qui était permis à l'époque où il a tourné les films où il a été le plus confronté à la censure. Les corps étaient quand même beaucoup tuméfiés, enfin c'était une sorte de défi à l'ordre établi, à la moralité, quoi. C'est un cinéaste de la chair aussi, quelque part.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a il y a une sorte d'érotisme du corps de la femme qui est tuméfié dans le cinéma de Fuller, que ce soit dans Le port de la drogue ou Les Bas-fonds new-yorkais, c'est très présent. Mais il y a aussi ce qui est intéressant en regardant les films et en regardant les dossiers de la censure, c'est de voir à quel point il était persévérant, d'une part, en ce qui concerne la représentation de la nudité et de la violence, mais qu'aussi on a l'impression qu'il défiait ouvertement la censure en écrivant des choses comme dans cette scène de bagarre, tous les coups sont permis. Alors ça, c'est quelque chose qui faisait sortir de l'orgon, bien entendu, les représentants du code de production, ou pour le démon des eaux troubles, écrire que la combinaison d'actrice doit, la fermeture éclair de la combinaison d'actrice doit être descendue le plus possible. Il y a une volonté vraiment de pousser les choses. Il y a une volonté d'éviter toute platitude aussi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que Fuller vient d'un certain type de presse, et donc qui est notamment le graphique de Bernard McFadden, qui est ce tabloïd new-yorkais, mais aussi de ce qu'on appelle le yellow journalism. Et dans cette tradition, il y a l'idée toujours que non seulement on rapporte une nouvelle, mais on dit les choses de manière à la fois simple et en vraiment en martelant les choses, en tapant sur la tête du lecteur. Il faut que les choses soient simples et en plus qu'elles soient frappantes. Difficilement frapper les gens si on fait une scène de bagarre avec quasiment aucun coup. Là, c'est pas le cas, bien sûr. Si on montre les scènes érotiques, il n'y a pas de nudité véritablement chez Fuller, sauf quand c'est permis vraiment à la fin de sa carrière. Mais il y a un érotisme, bien sûr. Il a eu des problèmes aussi avec des choses qui nous semblent tellement signifiantes aujourd'hui, bien entendu, dans Shine the Gate, où il y a Angie Dickinson, dont on sait qu'elle a des jambes superbes. Il savait déjà qu'il allait tourner avec Angie Dickinson, et dans son scénario, il mentionnait constamment qu'il allait filmer les jambes. Mais c'est quelqu'un de rusé, c'est-à-dire qu'on lui dit non, vous ne pouvez pas montrer les jambes d'Angie Dickinson, enfin du personnage. Et surtout, vous ne faites pas de panoramique sur les jambes pour introduire le personnage, qui fait qu'il ne fait pas un panoramique du haut en bas, mais il fait un panoramique latéral. On a les jambes d'Angie Dickinson qui occupent quasiment tout le cadre en cinémascope. C'est encore plus fort en réalité que le panoramique qu'il avait prévu à l'origine.
Et c'est ce que tu appelles dans le livre le sensationnalisme constructif, quoi. Hein, voilà, quoi. C'est, enfin, sorti de l'exemple de Dickinson, mais sa manière de s'appuyer sur son vécu dans le journalisme et de s'appuyer sur le sensationnalisme pour faire quelque chose derrière qui porte. Tu développes toute une analyse là-dessus dans le livre.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette idée de sensationnalisme constructif, qui est une expression que j'ai trouvée dans quelques publicités qui avaient fait paraître le graphique à la fin des années 20, il y a vraiment effectivement l'idée de... Oui, on fait du sensationnalisme. Oui, on montre des scènes de violence, on montre éventuellement de la nudité, on présente les choses de manière un peu criarde, mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et dans tous ces films, c'est pas une succession de scènes de violence, c'est une succession de scènes avec de l'érotisme. Et, encore une fois, il y avait un message, oui, dans les films, dans la plupart des films de Fuller. Il y a quelque chose, c'est plus ou moins évident, c'est plus ou moins fort, mais c'est évident, évidemment, dans J'ai vécu l'enfer de Corée, dans Le jugement des flèches et dans plein d'autres. Il y a une matière qui est là, c'est-à-dire que ce sont vraiment... des films de genre qui ont une histoire excitante en général, et par le biais de ces histoires excitantes, Fuller veut nous dire quelque chose. Et il le dit parfois, alors ça lui a été reproché de manière très évidente, bien sûr. Mais encore une fois, ça c'est une leçon qui provient de ces années de journalisme. Il faut vraiment dire les choses. Et les dire simplement, c'est-à-dire que du coup, dire les choses et les dire simplement, ça veut dire qu'on évite en général de passer par des choses indirectes, par la suggestion. On énonce les choses, c'est tout. Et ça peut être visuellement, ça peut être à travers les dialogues, bien entendu, peu importe, mais les choses sont là, sous nos yeux, on n'a pas besoin de les décoder.
Bah écoute, je pense que ça va être une belle conclusion, Franck, puisque nous sommes arrivés au bout de cette émission, en essayant d'explorer un peu toutes les facettes de ton ouvrage, ce qui n'était pas évident. On aurait pu parler aussi, parce que tu consacres une grande partie à Dresser pour tuer.
C'est très compliqué à résumer en peu de choses.
Voilà, en quelques minutes, mais pour en savoir plus, voilà, j'invite les auditrices et auditeurs à se précipiter sur l'ouvrage dans la collection Raccord chez Rouge Profond. Donc ça s'intitule Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement. C'est signé Franck Laffont, et tu as dû l'écrire aussi jusqu'à l'épuisement, vu la taille du pavé. Et on te remercie beaucoup pour être venu dans cette émission de Culture Prohibée consacrée à Samuel Fuller et plus particulièrement à ton ouvrage.
Mommy, dear, tell me please, is the world really round? Tell me where.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, and the last but not the least, à la technique, n'oublions pas Léo Magnin, bien sûr. Salut les gens et rendez-vous à la prochaine. Surely is found, and the sky up above is so blue and clear, so that you'll see the bluebird if it should come near, and the sun doesn't fall in the sea out of sight. All it does is make way for the moon's pretty light. And if children could fly, there'd be no need for birds. And I cry, little ones, 'cause I'm touched by your words. Search round the world till the bluebird is found. Little one, there's no need to wander too far, for what you really seek is right here where you are. Show me where. Heaven blessed me with you.